Donc F6 GPX opérant F6 KGL. Donc voilà, donc on est maintenant sur le 144. Et donc on va commencer le cours tout de suite. Je pense que maintenant l'audio est mieux parce que là on a trois ordinateurs qui tournent sur Internet, donc à mon avis c'était un peu trop. Il y avait un peu trop de flux là, en plus avec la webcam. Donc on y va. Donc on continue le cours. Ça va être dur là. Il y a un peu trop de bruit. Alors, donc nous en sommes donc au page 45 et on va parler ce soir des bobines et des condensateurs. Alors on va commencer un petit peu la grande salade parce que jusqu'à présent on avait vu que les résistances, le composant résistance. Et maintenant on va rajouter deux autres composants qui sont la bobine et le condensateur. Alors je vais chercher dans ma boîte à bricolage. Voilà. Alors je le présente aussi à la webcam. Je ne sais pas si ça va marcher, quand elle va se rafraîchir. Donc là, j'ai un circuit oscillant composé d'une bobine et d'un condensateur. Voilà, c'est ce qui va passer à la webcam. Donc dans mes mains, là, je tiens à la fois, enfin tout est soudé. En fait, c'est la partie d'un émetteur 144 qui a été démontée. Donc en fait, on a une bobine. Ah, ce que je tiens dans mes doigts, et le condensateur, c'est ce qu'il y a au bout. Ah, c'est la partie avec les lames. Donc, ok, c'est à peu près clair. Donc, on va voir de quoi est composée la bobine, de quoi est composé le condensateur. Alors là, bon, c'est vrai que ça a été démonté, donc bon, je pense que tout le monde connaît un peu ce que c'est que ce truc-là. Alors, premièrement, quand on parle de bobine, il y en a aussi qui emploient le mot self. Le mot self, c'est pas vraiment un mot approprié. Un self, c'est une réduction de self-induction qui est en fait le phénomène et non pas le composant lui-même. Hein? Donc il vaut mieux utiliser le terme de bobine ou d'enroulement comme on veut, mais pas self. Et de même, l'adjectif selfique, c'est encore moins beau. Encore moins français. Ah, ça existe, j'ai entendu. Alors, ce qui est aussi important, dans toutes les formules qu'on va voir, il y a des formules simplifiées dans lesquelles on emploie 159 et quelque chose. 159, c'est 1000 divisé par 2 fois pi. Et ça ne fait pas exactement 159, ça fait 158, c'est proche de 159, mais ça ne donne pas 159. Et donc, ce sont des formules simplifiées qui permettent juste de simplifier la vie et d'éviter d'employer 2π. Mais de ce fait, le calcul est faussé. Deuxième chose, quand on emploie une formule systématiquement avec une bobine ou un condensateur, on va souvent employer des formules où on a 2π dedans et des racines carrées. Donc systématiquement, on va avoir des chiffres qui ne sont pas ronds. Et évidemment, dans la calculette, elle va donner un chiffre très précis. Donc à l'examen, c'est à chaque fois le chiffre arrondi qui est demandé, et non pas le chiffre avec des quatre chiffres derrière la virgule. Pour pas se... Heureusement. Hein. Heureusement. Mais de ce fait, on peut avoir un petit écart entre la formule simplifiée quand on utilise 259 et la vraie formule quand on utilise 2π. Hein, donc on peut avoir un petit écart, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ben, c'est à peu près tout. Donc on va voir maintenant ce que c'est qu'une bobine et ce que c'est qu'un condensateur. On ne fera que ça ce soir parce que c'est déjà bien. Il y a déjà pas mal de choses à dire. C'est déjà très... assez dense. Alors pour ça, j'ai fait un tableau qui est page 46, en haut de la page 46, et où on a d'un côté le condensateur et de l'autre côté la bobine, et donc avec toutes les formules qui vont bien, et toutes les caractéristiques de chacun des composants, et avec en haut du tableau, c'est tout ce qui différencie le condensateur de la bobine, c'est-à-dire qu'on va voir que ce sont des formules qui sont complètement différentes. Hein, donc il y a des formules qui sont typiquement liées au condensateur et d'autres typiquement liées à la bobine. Et dans la seconde partie du tableau, on va s'apercevoir qu'on a aussi des formules qui montrent la complémentarité entre la bobine et le condensateur. On va voir que la bobine a l'effet totalement inverse du condensateur. Mathématiquement comme physiquement, ce sont deux composants qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont un comportement complètement inverse. Et d'ailleurs, c'est tellement complémentaire qu'ils sont toujours ensemble. Dès qu'il y a une bobine, on a un condensateur à côté, pas loin. Ou alors, c'est qu'on ne veut pas faire... enfin, si on n'a que le condensateur ou que la bobine, c'est que c'est pour une raison bien précise. Mais généralement, on a toujours ensemble le condensateur et la bobine. D'ailleurs, dans tous les circuits, quand il y a une bobine, pas trop loin à côté, il doit y avoir un condensateur. Voilà. Et le condensateur, oui, il est sans fil, voilà. Voilà, mais on va voir ce que c'est. C'est vraiment deux composants complètement différents, hein, physiquement. Donc physiquement, ils sont complètement différents. On va les reprendre pour voir un peu comment c'est foutu. On va commencer déjà par analyser le condensateur. Alors, mon petit condensateur, alors j'en ai un, mais qui est relativement petit, je vais essayer d'en trouver un plus gros dans tout mon bordel là. Voilà un condensateur un peu plus gros. Alors, un autre condensateur, voilà. Alors, un autre condensateur. Alors celui-là il est mort, visiblement, quand les plaques elles se touchent, comme là je le vois, je sens, parce qu'il y a des frottements, quand les plaques se touchent, le condensateur est foutu. C'est pas bon. C'est con, c'est... Ah ben non, ça marchera pas. Alors, on va commencer par le condensateur. Alors, le condensateur, comme on le voit, il y a deux... Je vais le mettre devant la webcam. Je ne sais pas si ça va bien passer comme ça. Je vais faire un petit blanc sur 144, et ce KGL opéré par la tige GPI. Bon, je continue. Donc F6, KGL opéré par GPX. Donc le... Alors, est-ce que ça vient... Ça a du mal à venir sur la webcam. Donc voilà. Donc là, mon condensateur. Alors on voit peut-être pas trop les lames. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a une partie des lames qui sont mobiles. Hein, ça tourne. Et une autre partie des lames qui sont fixes. D'accord ? Ce qui veut dire que ça, c'est un condensateur variable. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des lames qui se superposent plus ou moins. D'accord ? Et c'est typiquement... Alors, un condensateur, ça fonctionne grâce à un effet électrostatique. L'effet électrostatique, c'est quand vous prenez le coup classique quand vous étiez élève, je pense, c'est la règle en plexiglas qu'on frotte contre le pull, et après, on attire les petits bouts de papier. Ou alors l'expérience aussi qui attire les cheveux avec le peigne, etc. Hein, donc ça, ça, c'est l'électrostatique. Et le condensateur, c'est typiquement un effet électrostatique. C'est-à-dire que dans les plaques qui sont l'une en face de l'autre, on va avoir des électrons, puisqu'en fait, qui attirent les bouts de papier sur ma règle en plastique ou mes cheveux sur le peigne, c'est de l'électricité statique. En clair, j'ai arraché des électrons, soit à ma règle, soit à mes cheveux, enfin, ou au pain, je ne sais pas dans quel sens ça marche, et de ce fait, eh bien, les électrons cherchent à se reconstituer. Et de ce fait, la matière qui a des électrons en trop, eh bien, est attirée pour remplacer les électrons. Alors là, c'est pas, la matière va pas, enfin, les plaques ne vont pas se rapprocher. Par contre, s'il y a plus d'électrons que d'un côté, les électrons, tout au moins, qui sont d'un côté de la plaque, vont chasser ceux qui sont de l'autre côté. D'accord ? Donc c'est typiquement ça, l'effet électrostatique. Donc tous les électrons qui sont, par exemple, dans les plaques mobiles, vont chasser les électrons qui sont dans la plaque fixe. Enfin, dans les plaques fixes, parce que là-dedans, on voit bien, il y a plusieurs plaques. On pourrait en avoir qu'une seule, mais pour avoir plus de surface en vis-à-vis, on rajoute des plaques. Et évidemment, plus le condensateur, plus les plaques en vis-à-vis vont avoir une surface importante, plus le condensateur va être gros. Va avoir une grosse valeur. D'accord ? Donc ça, alors, un condensateur, une résistance, ça se mesure en ohm. Eh bien, condensateur, ça va se calculer en farad. On va voir ce que c'est qu'un farad après. Enfin, on peut le voir tout de suite, d'ailleurs. C'est la définition d'un condensateur d'un farad, c'est quand on a un volt entre les deux plaques, la plaque mobile et la plaque fixe, si on a un volt, eh bien, on a un coulomb d'électricité dans les plaques. Vous vous souvenez, un coulomb, c'est 6 × 10⁻¹⁰ électrons. C'était un coulomb, c'était, enfin, au moins 1 ampère, c'est un coulomb par seconde. Donc tout ça, c'est lié. Donc un farad, c'est un condensateur qui peut, lorsqu'on met juste 1 volt à ses bornes, juste 1 volt, et on a donc un coulomb, donc une quantité d'électricité très importante. Ce qui veut dire qu'un condensateur d'un farad, c'est un truc énorme. Et en fait, pratiquement, il n'y en a pas. Ça existe, mais c'est pas très demandé. Ça existe chez Monsieur EDF. Pour redresser le cosinus phi. Alors, généralement, voilà, les mesures d'un condensateur, on commence à avoir des gros condensateurs d'un millifarad dans les alimentations. Hein, ça, une alimentation comme ça, il peut y avoir pour des grosses alimentations un millifarad. Généralement, c'est plutôt de l'ordre du microfarad. Quant à ça, à mon avis, ça fait dans les 100 picots maximum, 50 picots. Donc 50 picots, c'est 10 puissance moins 12. Donc c'est 1 millième de milliardième. Donc picots, ouais, non, 1 millionième de milliardième à picots. 10 puissance moins 12. Donc, bon, il n'y a plus grand-chose, hein. Donc, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Alors, les diodes varicap, effectivement, c'est des diodes bien spécifiques qui peuvent remplacer des condensateurs, mais de faible valeur.
Oui.
Mais on verra ça après. Ah ben oui, parce que maintenant, attendez, ça coûte très cher à fabriquer, parce que ça, c'est de la main-d'œuvre, hein. Et puis c'est de la main d'œuvre, enfin c'est de la mécanique de précision. Donc ça coûte très cher. Donc si on peut remplacer ça par un composant viraphile sans rien dedans, c'est toute une bonne affaire pour le fabricant. Hein. Bah voilà. Ouais. Ah bah ça c'est. On se donne. Ouais, bah c'est ça. Voilà. Et donc, bah, ça, alors ce condensateur-là, par contre, il est de, il a une plus belle tête, il est plus, déjà quand on fait tourner comme ça les plaques, on sent bien que ça ne frotte pas. Que parce qu'évidemment, il faut que les deux plaques, elles ne soient pas en contact pour que l'effet électrostatique fonctionne. Alors ça, c'est, même chose, c'est un double plaque, ça. C'est un condensateur double plaque. C'est-à-dire que là, sur ce condensateur-là, il y a en fait deux condensateurs. Alors par contre, sur ce genre de condensateur, les lames fixes sont toujours en contact. C'est-à-dire que les deux lames fixes sont en contact dans le double condensateur. Donc il faudra faire attention pour le montage. Il faudra faire attention à ça. Donc, la valeur du condensateur, ce qu'on appelle aussi la capacité. Alors, la valeur du condensateur, ça s'appelle la capacité. On va faire un petit bilan sur 144F6 KGL opéré par actif GPX. Donc, F6 KGL opéré par actif GPX, on continue. Donc, la valeur du condensateur, elle se définit physiquement par alors, il y a un terme qui s'appelle D. D, c'est le diélectrique, c'est-à-dire que ce fonction de l'isolant qu'on va prendre, là, l'isolant, c'est de l'air. L'air ou le vide, c'est pareil. Mais on peut utiliser aussi d'autres isolants, c'est-à-dire qu'on peut avoir entre les lames, par exemple du plastique, du mica. Hein, dans les vieux postes à galène, on utilisait souvent du mica. À l'huile n'est pas spécialement un isolant. Hein. Ah non, l'huile n'est pas un isolant. Même à la limite, c'est même l'inverse. Hein. Ah oui. Ah oui, avec l'air, oui, mais c'est pas... C'est pour... Oui, ouais, mais ça marche pas, en électronique ça marche pas. Pas de chance. Margarine peut-être, mais l'huile, ça marche pas. Bon, donc, le diélectrique, donc là, dans notre cas, c'est de l'air. Donc on va prendre la valeur du diélectrique. Il y a une valeur. Diélectrique, ça veut dire isolant. Hein. Alors, c'est pas isolant au sens non résistant, c'est isolant au sens... alors, même pas, non. Ah non, fusible, c'est pareil, c'est résistant. Mais c'est pas évident de donner cette notion, parce que c'est une notion de... au transfert de l'énergie entre les deux plaques, en fait. Hein, donc, on ne peut pas parler de résistance, donc c'est pas de la résistance. C'est le fait que l'électricité est envoyée dans les plaques qui sont en face. D'accord ? Donc, le terme exact, là, c'est la permissivité. C'est la permissivité, le terme scientifique, qui n'a rien à voir avec la résistance. En fait, c'est le fait de transférer les parties d'électricité d'une plaque vers l'autre. C'est ça. Hein? Donc, c'est ce coefficient diélectrique multiplié par la surface. C'est-à-dire que plus il y a de surface en vis-à-vis, plus la valeur du condensateur est importante, et divisé par l'épaisseur des lames. Parce que plus les lames, elles sont espacées, plus la valeur du condensateur est petite, puisque les électrons d'une plaque ont peu d'influence par rapport à l'autre plaque. Du diélectrique, ouais. Donc c'est l'espacement entre les lames. C'est pas l'épaisseur des lames, pardon. C'est l'espacement qu'il y a entre les lames. Voilà. Exactement, c'est l'espace qui est entre chaque lame. Euh, Donc je remontre mon petit. Alors je sais pas si je me rapproche de la caméra, je sais pas si ça va pas être flou d'ailleurs. Voilà, bah, ça risque d'être flou effectivement. Donc pour revenir donc à mon condensateur, donc la valeur du condensateur, donc c'est l'épaisseur la valeur du diélectrique. Alors, pour revenir à la valeur du diélectrique, la permittivité de l'air, enfin du vide, plus exactement, à commencer par le vide, l'air c'est à peu près pareil. La permittivité du vide, c'est 8,9419 10^-12 farads par mètre. Alors ça, c'est un truc. Alors pourquoi? Alors, c'est une formule que j'ai trouvée, j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est égal à 1 divisé par 36 pi multiplié par 10^-9. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi il y a le nombre pi qui intervient là-dedans. Ah. Mais bon, croyez-moi sur parole, ça marche. Et la permittivité de l'air, pour simplifier, on dit que c'est 8,85. Donc pour le vide, on dit que c'est 8,94,19. Pour l'air, on dit que c'est 8,85. Ah. Donc, puisque l'air, c'est quasiment pas la même chose que le vide. Quasiment. Donc, quand on prend pour calculer la valeur de ce condensateur, on peut le mesurer, enfin le mesurer, il suffit de... Alors, le plus embêtant, c'est quand même de mesurer l'épaisseur du diélectrique, c'est-à-dire la distance entre les lames. Alors là, le pied à coulisse. C'est le pied à coulisse. Ce qui n'est pas non plus évident d'ailleurs, c'est de calculer la surface des lames en vis-à-vis. Calculer la surface des... Parce que là, il faut s'amuser à calculer les surfaces. Alors, d'un côté ou de l'autre, mais pas les deux, évidemment. Puisque c'est en vis-à-vis, donc on calcule les surfaces d'un côté. Donc bon. Alors je vous rassure quand même, il y a des instruments de mesure qui existent, qui s'appellent un capacimètre, qui permet, comme un. Sur un voltmètre, enfin un multimètre numérique, on a souvent cette fonction de capacimètre qui permet, on prend les deux pointes du multimètre et on les met de chaque côté du condensateur et on voit la valeur du condensateur sauvé. C'est souvent plus précis que les calculs qu'on fait qui sont très approximatifs. Donc c'est un peu plus précis. Mais bon, c'est pas d'une précision absolue non plus. Hein. Oui, bah alors là, ça se complique là. Alors évidemment, si mon diélectrique, c'est-à-dire si mes. Je repasse là. Voilà, ben, on voit peut-être un peu mieux, quoique. On voit un petit peu mieux là le condensateur, enfin tout au moins les lames du condensateur. Si on n'utilise pas l'air comme isolant, comme diélectrique, évidemment on est coincé. Heureusement, on a ce qu'on appelle des coefficients de permittivité relative, ou des coefficients diélectriques. C'est-à-dire que selon ce que l'on va mettre, eh bien on va avoir un coefficient. C'est-à-dire que mon matériau va permettre de réduire l'espace qu'on a entre les lames et donc de réduire la taille du condensateur. Alors exemple, je prends du téflon, c'est un coefficient de 2,3. Ça c'est pour apprendre, c'est juste pour avoir une idée de ce dont on parle. Donc si on prend du téflon et qu'on met du téflon entre les deux, le coefficient sera de 2,1 pour le téflon. Le polyéthylène, c'est 2,3. Autre exemple, le mica, de 5 à 7 selon les qualités de mica. Qu'est-ce qu'on a encore? Le papier, entre 3 et 4. Donc bon, on a comme ça différents matériaux Alors, on a aussi ce qu'on appelle des matériaux qui sont un peu plus chimiques et qu'on appelle par exemple le tantal. Donc le tantal c'est de la chimie et en fait ça permet de réduire la taille des condensateurs. Donc quand vous achetez des condensateurs au tantal, ils ont des grosses valeurs mais ils sont tout petits. Parce que c'est le diélectrique qui permet ça. Parce qu'en fait les lames elles sont très rapprochées, donc ça tient beaucoup moins de place, mais pour autant le diélectrique donc est beaucoup plus rapproché, et de ce fait la valeur du condensateur est plus importante. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des céramiques. Donc entre les deux on met de la céramique. Alors c'est pas du carrelage, hein, je vous rassure. Ah, c'est quelque chose de bien spécifique. Mais entre les lames, ouais. Exactement, on remplace l'air par cette des membranes en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est très très fin, très fin, très fin. Voilà. Ah bah oui. Ah bah non, parce que variable, c'est très compliqué à fabriquer ça. Ah bah oui. Il n'y a plus maintenant les condensateurs variables, on arrive plus à en trouver des neufs. Ça devient très dur. Ça se fait plus. Qu'est-ce qu'on a encore à dire? On a parlé alors de la quantité d'électricité qui peut être emmagasinée dans un condensateur. C'est la définition de base du farad. Puisque on a dit un condensateur d'un farad, ça peut emmagasiner un coulomb lorsqu'on a un volt à ses bornes. Donc ça veut dire que la formule c'est C, condensateur, est égal à Q divisé par U. Alors on l'a déjà vu ça, hein. C en farad. Donc à chaque fois je mets entre parenthèses, je mets toujours dans l'unité dans laquelle ça se calcule. Ah, c'est comme ça que je pour savoir de quoi on parle. Hein, est égal à Q. Donc Q c'est la valeur en coulomb. Donc le C de coulomb n'est pas égal au C du condensateur. Hein? Ah non, c'est pareil, c'est un C majuscule. Hein? Mais pour ça que je vous le dis, c'est parce qu'au bout d'un moment, entre les coulombs, les condensateurs, on se mélange à vitesse et que l'on divise par la tension qui, elle, est donnée en volts. Donc U en volts. D'accord? Donc ça, c'est la définition de base. Inversement, on peut aussi la représenter sous forme de triangle, comme on aime bien représenter. Ah, il y en a certains aussi qui adorent ça. Christian en particulier, et François. Donc, quand on utilise le triangle, on peut aussi dire que Q, c'est U. C'est-à-dire que là, je vais utiliser ce triangle comme pour la loi d'Ohm, avec le Q en haut et Cu en bas. Donc, pour calculer la valeur, la quantité d'électricité emmagasinée dans mon condensateur, c'est quoi? C'est donc Q est égal à C multiplié par U. Hein, donc, la valeur du condensateur, la valeur de la quantité d'électricité, c'est la valeur du condensateur multipliée par la tension aux bornes du condensateur. Voilà, on cache comme pour la loi d'Ohm là. Comme pour la loi d'Ohm. Et évidemment, ça, toujours pareil en coulomb, ça en farad et ça en volt. À chaque fois, toutes les formules que l'on voit, à chaque fois, on parle la valeur, c'est à chaque fois l'unité. Hein, donc quand on parle de quantité d'électricité, c'est en coulomb. Donc, on ne cherche pas à comprendre. Ah oui, Q égalité. I multiplié par T. Et T en seconde. Puisque l'unité de temps, c'est la seconde. Donc ça, c'est une des formules. La deuxième formule, elle est un petit peu plus compliquée. C'est la puissance. que l'on peut emmagasiner, enfin, c'est pas moi, c'est pas la puissance, c'est l'énergie. Puisque puissance, derrière, c'est, il y a une notion de temps. Voilà. Donc c'est l'énergie, donc la, l'énergie qui peut être emmagasinée dans le condensateur. Donc ne pas confondre électricité, comme là, et énergie, comme on va voir. L'énergie, c'est E, qui se calcule en joules. Alors, le condensateur, selon qu'il se charge ou qu'il se décharge, soit il est considéré comme un générateur, ou au contraire comme une charge. Hein, le condensateur, soit on peut le charger, on met une pile dessus, il se charge, mais par contre, une fois qu'il est chargé, on retire la pile, il devient générateur, puisqu'il a emmagasiné l'électricité. Donc il peut, le condensateur, par rapport à la résistance, si la résistance, elle, ne pouvait que consommer de l'énergie, le condensateur, lui, il peut emmagasiner de l'énergie, puisqu'il a emmagasiné de l'intensité avec une tension. Oui, d'ailleurs, exactement, enfin plus exactement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont des accus qui peuvent devenir condensateurs. Mais on est entre les deux, là. Donc en fait, ça peut devenir un accumulateur, on peut s'en servir comme accumulateur, avec une très faible puissance, évidemment. Mais ça peut avoir ce rôle-là, puisque en fait, j'ai emmagasiné de l'électricité. Donc l'énergie emmagasinée dans mon condensateur, c'est égal à 1 demi de Q multiplié par U. Ah oui, oui, moi je mets 1 demi, mais c'est 0,5. Ah, 1 demi ou 0,5. Donc 1 demi donc la quantité d'électricité qu'il y a dans mon condensateur multiplié par la tension, et je ne prends qu'un demi puisque j'en ai en fait, la moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Une fois que j'ai vidé la moitié du premier côté, là, j'ai vidé automatiquement la moitié de l'autre côté aussi. Donc je n'ai que la moitié, en fait. Et une fois qu'il est... En fait, il se décharge de la moitié. C'est cornu comme truc, mais enfin bon. Hein? Et éventuellement, ce Q-là, ce Q qui est là, je le remplace ici. Hein? Le Q que j'ai sur ma formule... triangle, donc Q est égal à C multiplié par U, je le remplace dans ma deuxième formule, qui est là. Et donc ça me fait l'énergie en joules, qui est égale à 1 demi de C multiplié par U multiplié par U. Donc 1 demi de la valeur du condensateur multiplié par la tension au carré. Hein, U multiplié par U, c'est la tension au carré. Hein, cette notion de carré, ça on va la voir tout le temps maintenant. Donc ça, ce sont les trois formules de base à connaître pour le condensateur. Enfin, tout au moins les deux. Il y a ce triangle-là et cette formule-là. La deuxième formule, celle-là, découlait en fait des deux autres. Hein, la dernière formule, celle qu'on a vue, un demi de C multiplié par U au carré, découle des deux autres. Et évidemment, dans la deuxième formule, toujours le condensateur est toujours en farad, et ma tension est toujours en volts. Hein. Je le mets plus, mais c'est automatique.
Ce que vous constatez, c'est un noir gras,
hein. Ouais, alors, c'est les noirs gras qu'il faut connaître. Alors, les questions portent à l'examen essentiellement sur la définition du condensateur, donc le triangle, donc C est égal à Q divisé par U, ou Q est égal à C multiplié par U, ça revient au même. Et deuxièmement, sur la quantité d'énergie emmagasinée dans le condensateur, donc ça porte sur la quantité d'électricité emmagasinée dans le condensateur, la quantité d'énergie, et enfin sur ce qu'on avait dit au début, c'est-à-dire la formule de base, comment calculer la valeur d'un condensateur. Donc le diélectrique multiplié par la surface divisé par l'épaisseur du diélectrique. Ou l'espacement entre les lames, c'est même. Donc ce sont les trois formules que l'on a. Enfin, tout au moins pour cette partie-là. Maintenant, ma petite bobine. Alors, la bobine. J'efface donc les formules concernant le condensateur. Et maintenant, on va s'intéresser à la bobine. Alors, la bobine, on continue. La bobine, alors, cette bobine que nous avons ici, je la repasse à la webcam, qui va bientôt arriver. Normalement, ça devrait... Voilà. Pas trop mauvais, ça. Alors, la bobine, premièrement, encore une fois, c'est une bobine, ce qu'on appelle une bobine à air. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des spires, là, c'est de l'air. Mais dans ma boîte à miracles, là, j'ai aussi des bobines qui sont à autre chose qu'à air. Dedans, il y a de la ferrite. Ou des lames de fer. Et dans ce cas-là, c'est plus direct, c'est plus de la radio, là, ça devient de l'électricité lambda. De l'électricité en tant que telle, monsieur EDF.
Des
voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, alors sur les schémas, ce genre de bobine, c'est l'espèce de spire là, l'espèce de petit pont là que j'ai dessiné. Et lorsqu'il y a un noyau, eh bien il y a un petit pointillé au-dessus ou en dessous pour montrer que le noyau n'est pas un noyau à air. C'est pas une bobine à air. La valeur de la bobine, elle, va se calculer en Henri. Alors, même remarque pour le farade, une bobine d'un Henri, c'est un truc énorme. Moralité, on va utiliser plutôt des valeurs du style le milli-Henri, voire le micro-Henri. Le nano-Henri, c'est vraiment très petit. Mais, en règle générale, ça fait quelques micro-Henri. La bobine que je l'ai montrée tout à l'heure fait quelques micro-Henri. Des nano-Henri, c'est vraiment une spire. Oui, il y a des bobines. Heureusement qu'il y a des composants qui sont tout faits et on connaît la valeur. Enfin, c'est une valeur, c'est comme les résistances, il y a une tolérance. Hein. Mais ça évite de se creuser la tête pour calculer la bobine. Alors, la bobine, comment on la calcule? Alors, la bobine se calcule, alors, premièrement, le facteur de forme. Alors avec ça, on est bien, c'est comme le diélectrique, c'est le truc pour tout. Facteur de forme, ça veut dire quoi? Oui, je l'ai mal passé à la webcam. Facteur de forme, ça veut dire quoi? Là, en règle générale, les spires, elles sont, on va essayer de les faire bobiner de manière ronde. On pourrait les faire carrées. Mais surtout, le facteur de forme, c'est la longueur de la bobine par rapport à son diamètre. Hein, le diamètre, c'est dans ce sens-là, voilà, c'est ce qu'on me montre à la webcam bientôt, qui va bientôt être rafraîchi, voilà, dans ce sens-là, et la longueur, bah, c'est dans l'autre sens. Donc, et aussi un paramètre important, c'est l'espacement entre les spires. Parce que selon que la bobine, on la tire plus ou moins, malgré qu'elle met le même nombre de spires, eh bien, ça peut faire changer sa valeur. Voilà. Comme elle est plus espacée, elle est plus longue, et comme elle est plus longue, ben, ça va changer. Alors, dans quel sens? Là, c'est là que ça commence à se compliquer énormément. En règle générale, quand on étire une bobine, la valeur diminue. Et quand on la raccourcit, mais ouais. Il y a aussi un paramètre qui est important, c'est le diamètre du fil de la bobine en lui-même. Mais bon, il y a beaucoup, enfin ça fait beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et évidemment, comme à chaque fois, selon que l'on utilise de l'air ou un autre matériau qu'on passe à l'intérieur. Parce que si on met de l'air, ça, il va y avoir un coefficient. Si on met un autre matériau dedans, on va avoir un autre coefficient. Ah ben on peut mettre de la ferrite, du fer doux, C'est de la ferrite. Ah, la ferrite, c'est une espèce de... Ça ressemble à la poudre compressée, là. C'est de la poudre de fer et d'autres trucs dedans qui est compressée. Voilà. Que peut-on dire encore sur les bobines? Oui, alors revenons à ma formule. Quand même, on était parti de là. Donc mon facteur de forme, donc ma bobine en Henry, ça se calcule, c'est le facteur de forme, donc le truc sur tout, multiplié par le nombre de spires au carré. C'est-à-dire qu'une bobine qui a deux fois plus de spires que celle-là aura une valeur quatre fois plus importante. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que si elle a deux fois plus de spires, elle ne va pas avoir la même forme, par définition. Soit elle sera plus longue, ou alors les spires, ou alors les spires sont plus serrées. Et donc le facteur de forme, ce ne sera pas le même. Donc quand on dit que c'est multiplié par le nombre de spires au carré, il faut faire très attention quand même. C'est pas exactement ça. Non. Enfin, il n'y a pas de piège comme ça. Ah bah oui, la formule, elle est liée. Oui. Ah bah oui, ça joue aussi. Et puis, deuxième paramètre, donc c'est le nombre de spires au carré et le diamètre au carré. Pourquoi le diamètre au carré? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la section. La section, c'est la surface. La surface qui est au milieu. Alors que le diamètre, c'est une distance. Donc un diamètre au carré, c'est la section. Le diamètre, c'est l'écart entre les deux, entre les spires, là. Le passage. D'accord? Or, en fait, pour que ce soit... Et c'est ce qui est le plus facile à calculer, ça. On prend un pied à coulisse, on regarde, on arrive à trouver le diamètre très facilement. Pour avoir la section, on prend le diamètre au carré, on divise par 4 et on multiplie par pi. Par nous-mêmes. Donc c'est bien ma section. Ou le diamètre au carré. Et dans les formules de l'examen, c'est le diamètre au carré dont on parle, et non pas de la section. Dans le condensateur, on avait bien parlé de section, puisqu'on parlait de surface. On avait parlé de la surface. Donc on était bien en mètres carrés. En mètres carrés, en centimètres carrés, en millimètres carrés, on supposait que c'était une surface. Et là, c'est pareil, c'est une surface. C'est la surface de ma section. Ouais. Et dans les formules d'examen, c'est le diamètre au carré. C'est la section. Le diamètre au carré, c'est pareil. Et après, c'est dans les... C'est une histoire de coefficient, après. Donc tu le mets dans S, à ce moment-là, tu le mets dans le coefficient. Alors, pour revenir à notre formule, on peut... Alors, il y a des tas de formules. Alors, autant pour le condensateur, c'est relativement simple à trouver sa... à calculer sa valeur, parce que... Sauf que quand même, faut réussir à trouver la surface des lames en vis-à-vis. Mais une fois qu'on a ça, il n'y a rien de plus simple. Une fois qu'on connaît la surface des lames en vis-à-vis et l'épaisseur du diélectrique, c'est facile. On applique une formule. Et ça marche. Le plus fort, c'est que ça marche. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir des condensateurs très compliqués. Comme ça, il suffit d'avoir seulement une plaque de cuivre espacée de n'importe quoi, de la bakélite ou n'importe. Et vous faites un condensateur. Oui, mais un condensateur, ça se fabrique sans problème. Et on arrive à avoir des valeurs très précises. En particulier, quand on s'amuse à faire des antennes, on a besoin quelquefois de condensateurs, et dans ce cas-là, on prend des plaques de circuits imprimés double face, on connaît, c'est de la bakélite, on fait le coefficient, et puis la surface, et on s'amuse à calculer la surface de ce qu'on veut. On prend un morceau, on coupe. On prend la scie, ça coupe, on coupe. Et ça marche. Du coaxial, ça marchera bien aussi. Puisque du coaxial, on connaît le diélectrique, c'est du téflon. Et la surface, il suffit de prendre la coulisse, c'est pareil, on arrive très bien à calculer ça. Donc à chaque fois, il n'y a aucun problème pour trouver la valeur d'un condensateur avec des tas de autre qu'un condensateur variable, et des condensateurs qu'on fabrique à partir d'autres composants, c'est relativement simple. Pour fabriquer une bobine, c'est pas simple du tout. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc il y a des tas de. Si vous faites une recherche sur Internet d'une formule pour calculer une bobine, vous allez en trouver 50. Il n'y en aura aucune qui sera calculée pareil, il n'y en a aucune qui donnera le même résultat. Heureusement, c'est des résultats qui sont proches l'un de l'autre, je vous rassure quand même, hein, parce que sinon, on se flingue. Alors, il y a des formules plus ou moins complexes. Moi, j'en ai trouvé une qui me plaisait bien, parce qu'elle fonctionne à peu près correctement dans pas mal de cas. Ça donne un résultat à 10% près. Donc, moi, je suis un homme heureux. Avec 10%, c'est déjà... on dégrossit pas mal, déjà. Après, si c'est juste... pour ajuster la bobine exactement, en fait, il suffit de tirer dessus ou de la comprimer pour l'ajuster. Hein. Mais bon, une fois qu'on a déjà dégrossi à 10%, on est déjà très content. Et donc cette formule, c'est ce qu'on appelle, alors c'est ce qui s'appelle la formule de Nagaoka. C'est un japonais, comme son nom l'indique, qu'il a mis au point. Et heureusement que... Ah oui, parce que la formule de Nagaoka non simplifiée, c'est un monstre. Ah oui, c'est un monstre. Et celle-là, elle est simplifiée. Alors, elle est simplifiée. Pourquoi ? Parce que elle fonctionne bien lorsqu'on a un certain rapport longueur-diamètre. Pour un rapport longueur-diamètre de 1, c'est-à-dire que la bobine soit aussi longue que son diamètre est important. Donc qu'elle soit carrée, ou cubique, plus exactement. Et donc dans ce cas-là, alors cubique et spire jointive, important. Cubique, spire jointive. Et là, elle marche impeccable. Mais quand elle n'est pas cubique et que les spires ne sont pas jointives, comme là, comme dans ma bobine, parce que les spires, elles ne sont pas jointives, hein. Alors, cette bobine ne pourrait pas avoir les spires jointives parce que les spires, elles sont conductrices. Donc il faudrait qu'elles soient isolées. Comme par exemple avec du fil émaillé. Du fil émaillé, c'est un fil de cuivre avec de l'émail autour pour l'isoler. Et comme elle est isolée, eh bien on peut faire des spires jointives. Donc qu'elles soient ou bobinées les unes sur les autres. C'est ce que je veux dire. Parce que les bobines, on peut aussi en avoir avec des fils qu'il faut abobiner comme sur une canette de fil de couture. Hein. Donc on bobine. Oui, bah les bobines de haut-parleurs, typiquement. Là, il y en a plein et c'est du fil émaillé, ça. C'est-à-dire que le fil, il est isolé, en fait, grâce à une fine pellicule de vernis dessus. Voilà, un petit vernis dessus. Fil émaillé. Ah oui, l'isolant, oui. C'est à peu près tout ce qu'on a sur les... Alors oui, la formule à l'examen de la bobine, c'est l'histoire du facteur de forme multiplié par le nombre de spires au carré multiplié par le diamètre au carré. Il n'y a pas d'autre formule. Toutes les autres formules que j'ai rajoutées, j'ai mises en italique parce que c'était pour faire le pendant du condensateur, c'est-à-dire l'équivalent condensateur. On voit que pour la bobine... Sa valeur, sa définition, elle est liée au flux. Donc c'est l'espèce de rond avec une barre. C'est un phi. Et ça veut dire que c'est un flux magnétique. Parce que ma bobine, elle marche comment? Oui, on a oublié de dire ça au début. C'est que c'est un champ magnétique. Dans les spires de ma bobine, à l'intérieur, comme je vais avoir un courant qui passe dedans, ça va me générer un champ magnétique. Ah non, il s'enroule. Il s'enroule, il passe tout autour. Et
l'effet de
cours. L'effet de. Ça serait trop bon. Ah si. Et donc, ce, cette bobine fonctionne grâce à l'effet électromagnétique. Ah, c'est-à-dire que j'ai un champ magnétique qui va être généré dans la bobine. Ah, si on met un aimant, pas un aimant, une boussole au-dessus de ma bobine, elle va aller dans la direction du champ oui, magnétique. Un petit blanc sur 144 F6 KGL opéré par la CGT. Alors, donc on continue. F6 KGL opéré par la CGT. Donc voilà tout ce qu'on a comme formule. Maintenant on voit, alors est-ce que j'ai rien oublié là-dedans? Je regarde vite fait. J'ai oublié de dire, la valeur d'une bobine, ça s'appelle l'inductance. Comme la valeur du condensateur, ça s'appelle une capacité, la valeur de la bobine s'appelle une inductance. Hein, pourquoi? Parce que ça induit un champ magnétique. Ah, ça induit un champ magnétique. Donc c'est une inductance. Maintenant, on va voir ce qui rend complémentaire bobine et condensateur. Alors, déjà la fonction du condensateur. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. La fonction du condensateur, c'est de laisser passer des tensions alternatives. On va voir ce que ça veut dire tout de suite. Alors que la bobine, elle va s'opposer aux variations d'intensité. On commence par ça. Comment ça se fait? On vient de dire que mon intensité, enfin ma... l'audio. Non, ça y est, c'est reparti. Donc là, on continue mon condensateur, donc lui, il va laisser passer des tensions alternatives. Comment ça va se passer? C'est plus compliqué. On va faire un petit schéma au tableau, ça va être beaucoup plus simple. Alors, mon condensateur, on va dire qu'il n'y a qu'une seule lame, c'est plus simple. Enfin, il y a deux lames qui sont en vis-à-vis. Donc ça, c'est le schéma, d'ailleurs, du condensateur. Hein, deux plaques en vis-à-vis. J'ai une plaque à gauche, une plaque à droite. D'accord? Là, je vais avoir mes petits électrons qui sont là. C'est mes électrons qui sont... Je les dessine en moins, parce que les électrons, c'est négatif. Les électrons négatifs, imaginons que j'ai un courant qui arrive ici. Mon courant va alimenter mon condensateur en électrons. Et les électrons, ils vont se positionner tout le long des plaques de gauche du condensateur. Ce qui fait que comme je vais avoir des électrons à gauche, et bien ici, je vais avoir des manques d'électrons à droite, puisque par effet électrostatique, et bien ici, je vais avoir des manques d'électrons, puisque mes électrons vont être chassés. C'est typiquement l'effet électrostatique, ça. Hein, puisque les électrons qui sont à gauche vont chasser ceux qui sont à droite. Et de ce fait, ici, je vais avoir un courant qui sort. Mais j'ai un courant qui sort, donc on a l'impression quand on... Là, pour l'instant, je suis en continu. Maintenant, je change de sens. C'est-à-dire que je supprime là ma flèche de chaque côté et je change de sens. Donc là, mes électrons qui étaient là sortent. Et à la place, j'ai des trous. J'ai des trous, donc par définition, ça devient positif. Et comme c'est positif là, eh bien, de l'autre côté à droite, ça va attirer des électrons. Automatiquement. Et comme mes électrons vont rentrer, ben, je vais avoir du courant qui rentre dans le condensateur. Ce qui veut dire en clair qu'on a l'impression, comme ça, quand on regarde ça de très rapidement, que le courant traverse le condensateur, Mais en fait, pas du tout. D'ailleurs, physiquement, je vois pas comment il peut faire. Loi des nœuds et des mailles. Il n'y a pas de contact. Donc, il passe pas. On a l'impression qu'il passe, mais il ne passe pas. En fait, il s'accumule dans les plaques du condensateur, et d'ailleurs, quand le condensateur est plein, eh bien, le courant, il passe plus. Ce qui veut dire que plus le courant va changer de sens rapidement, plus le courant va être important. Puisque une fois qu'il est rempli mon condensateur, ben c'est foutu, je ne peux plus en rajouter d'autres. Mais par contre, si je fais changer mon courant très rapidement, eh bien mon condensateur ne sera jamais plein. À chaque fois, il se revide, il se remplit. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a plus de courant qui passe. Mais ce n'est qu'une impression. Ce qui veut dire une chose, c'est que plus le condensateur est gros, plus il laisse passer de courant. Et plus la fréquence augmente, plus il laisse aussi de passer de courant. Voilà. Donc vous vous rappelez de ce qu'on a dit avec la bobine. Plus elle est importante, moins elle laisse passer de courant. Et plus la fréquence augmente, moins elle laisse passer de courant. Donc c'est totalement l'inverse qui se passe. Voilà. Et là, donc dans ce cas-là, ce que l'on dit, c'est que ça laisse passer les tensions négatives. Les tensions alternatives, pardon. C'est-à-dire que je ne laisse pas passer d'intensité, puisque j'ai une barrière entre les deux, je me dirai que. Par contre, je laisse passer les tensions. Par l'effet électrostatique de mon condensateur. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors je regarde des questions quand même qui... Donc je pense que là, les problèmes audio ont été résolus. Et on continue. Donc je fais un petit blanc sur 144 et puis ce GTX observant à 6 KGL. Ok, donc on continue. Et donc là, on va parler maintenant des formules. On va rentrer dans les formules, histoire de vous faire peur. Donc là, j'efface. Alors, l'impédance. Alors, l'impédance, on va nommer ça Z, pour pas dire que c'est R. Comme résistance, on nomme ça Z. Par contre, ça se calcule en ohms. Ce qui veut dire que avec Z, on peut utiliser la loi d'ohm. D'accord? Donc on peut utiliser tout ce que l'on connaît, tout ce qu'on a déjà vu sur la loi d'ohm, la loi de Joule. C'est vachement bien quand même. Ouais. Ça, c'est pas à la place, c'est une autre manière. Enfin, on peut pas dire que c'est une résistance, puisqu'elle varie en fonction de la fréquence. Donc pour éviter de dire cette bêtise, je dirais, on appelle ça une impédance, parce que derrière, on va se dire, c'est pas une résistance. Et pour prévenir la loi, que attention, ça peut être, on a peut-être l'impression que c'est une résistance, mais ce composant-là, enfin ces deux composants-là, ne sont pas des résistances. On a l'impression que c'est la même chose, que c'est des résistances, mais ça n'en est pas. Pourquoi? Parce que si on change la fréquence, eh bien la résistance, elle va changer. Alors que ma résistance, mon composant résistance, si on change la fréquence, normalement, si tout va bien, ça ne devrait pas changer. Ouais, ça, c'est encore de la théorie, ça. Voilà. Si, on peut faire UDI. Bon, donc là, alors l'impédance du condensateur, on va appeler ça une capacitance. Voilà, donc c'est pour histoire de rajouter un peu de vocabulaire. Inversement, l'impédance d'une bobine, ça va s'appeler une réactance. Alors, il y en a aussi qui disent pour le condensateur, on va voir pourquoi tout à l'heure, que c'est une réactance négative. Parce qu'elle a un effet inverse de la bobine. Alors, comme elle a l'effet inverse, on appelle ça une réactance négative. Et par définition, la bobine a des réactances positives. On va voir pourquoi tout à l'heure. Alors, mon impédance de condensateur, ça va être égal à oméga, ça en phare. Et ça, oméga, on se souvient, la semaine dernière, on avait vu la pulsation. Mon histoire 2 pi multiplié par f. On avait dit que c'était oméga. Et revoilà ce petit oméga. Alors, oméga est égal à 2 pi f. Donc ça, c'est égal à 1 divisé par 2 fois pi fois f en l'air fois la valeur du condensateur en farad. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la formule d'impédance de base. 1 sur 2 fois pi, c'est évidemment en farad. Si je calculais, on va vite s'embêter. Si on a des puissances de 10, la notation ingénieur, parce que la fréquence, on est en radio, donc elle va être exprimée souvent au minimum en mégahertz. Et mon compte, donc, très important, on avait vu tout ça. Les valeurs sont toujours très petites. Farad, des valeurs très petites. L'impédance, elle, eh ben, elle va être fonction de ces deux choses-là. Donc si on n'utilise pas une calculette, on fait ça peut-être. Attention. Alors il existe une formule simplifiée. Alors le problème des formules simplifiées, c'est que non seulement il faut se souvenir de la formule, mais aussi de l'unité dans laquelle elle est définie. Et donc là, Z en ohm, pour mon condensateur, il y a une formule simplifiée, que c'est Z en égal à 159 divisé en mégahertz, redivisé encore une fois par la valeur du condensateur en nanofarad. Voilà comment ça se calcule. Donc, prenez votre calculette, vous faites 159, vous divisez par la fréquence en mégahertz, donc il faut que la fréquence soit donnée en mégahertz, et donnée en kilohertz ou en gigahertz, il faut transformer déjà en mégahertz. Et divisé encore par la valeur du condensateur en farad, en nanofarad. Donc si le condensateur n'est pas donné en nanofarad, même chose, il faut transformer en nanofarad. Le résultat n'est pas donné en mode ingénieur, mais tu peux le rentrer en mode ingénieur. Avec la puissance de 10. On fera des exercices par la suite. Hein. Mais oui, mais ça marche. Tu as le 10 puissance X en bas. Tu as 10 puissance multiplié par 10 puissance. Ouais, le EE, voilà, c'est ça. On fera les exercices après. Hein. Il y a 4 exercices. Il y a même 6 exercices après. Donc les exercices en fin de cours. Pour la calculette. Ah, erreur, ça commence bien. Bon, l'horreur. Donc ça, c'est l'impédance du condensateur. impédance du condensateur. La bobine, c'est plus simple. La bobine, c'est l'inverse. C'est vachement simple. C'est l'inverse. L'inverse, ça veut dire quoi? Qu'au lieu de dire 1 divisé par oméga C, c'est égal à oméga F. Alors, oméga F, pardon, c'est elle la valeur de la bobine. Oméga, toujours pareil, c'est 2 pi F, donc c'est 2 multiplié par pi multiplié, que je mette ça bien quand même, que j'essaie d'écrire bien. J'espère que j'écris fort. Bas, multiplié par L en Henri. Donc, oméga, c'est toujours pareil, c'est F, la fréquence en Hertz, multiplié par la valeur de la bobine en Henri. Et donc, si je me formule simplifiée, à la webcam, ça fait 6,28, donc c'est 2 pi, multiplié par la fréquence en mégahertz, et multiplié par la valeur de la bobine, là, en micro-henri. Si on veut utiliser une formule simplifiée, hein, puisque, en fait, on a, d'un côté, on a des mégahertz, donc 1 million, et de l'autre côté, on multiplie 1 millionième. En fait, on élimine les deux couches. Ça s'élimine. C'est toi qui vois là où c'est, quand tu fais tes exercices, là où c'est plus simple pour toi. Peut-être pour toi. Les deux sont valables. Maintenant, c'est toi qui vois. Ben oui, c'est là le problème, c'est que tu es obligé de te rappeler des unités, alors que la formule de base, tu te souviens que la fréquence est en Hertz, c'est tout.
Non, mais la fréquence en Hertz, s'il y a de la méga, il faut que tu
commences. Oui, mais la machine, elle sait le faire. On en fera après. Voilà. Donc ça, évidemment, sur la webcam, c'est un petit peu les formules. Mais il faut reprendre le cours et toutes les formules sont bien indiquées. Deuxième chose, les groupements. Parce qu'évidemment, on avait vu les groupements de résistance, parallèle, série, dérivation, et évidemment, mes bobines et mes condensateurs, je peux aussi les grouper. Je peux faire des groupements, condensateurs et série. En série, ou en parallèle, comme on veut. Alors, je rappelle qu'on fera les exercices à la fin du cours, les exercices pratiques, sur les formules, connaître. Mes condensateurs, premièrement, je les mets en dérivation. C'est ce qui est plus simple. En dérivation, c'est comme ça. On sent bien que quand on les met en dérivation, les plaques en vis-à-vis, elles vont s'additionner. Les surfaces, elles vont s'additionner. Donc ça veut dire que si je mets des condensateurs en dérivation, eh bien j'augmente la valeur du condensateur. Enfin, le condensateur équivalent, c'est la somme des condensateurs. Parce que, voilà. Inversement, lorsque je les mets en bris, en fait, qu'est-ce que fait? C'est comme si, ici, j'augmentais la largeur de mon diélectrique. Comme si j'avais la largeur du premier, plus supposant que les surfaces des deux condensateurs soient identiques. Physiquement, ça revient à ça. Donc, quand j'écarte mes lames le mécondensateur, eh bien, sa valeur est plus petite. Et on va s'apercevoir que on peut utiliser les formules des résistances. Donc là, je suis en dérivation, j'additionne. Donc comme je fais inversement, quand je suis en parallèle, eh bien je peux utiliser par ou le produit divisé par l'inverse de mes résistances. C'est vachement pratique en tout cas quand on n'a pas le condensateur qui va bien. D'accord? Donc là, on a CT égale à C1 plus C2 et un CT est égal à 1. Donc produit C1 multiplié par C2 divisé par C1 plus C2. Produit sur somme. Et on met les parenthèses quand on utilise la calculatrice. Mais quand je suis au tableau, j'en ai pas besoin. Oui, oui. Oh, bon, j'ai pas besoin en haut, c'est une addition. La calculatrice était faire une addition. Ah oui, ici, tu veux dire là. Excuse-moi, oui. Ouais. Tout à fait. Quand on pose l'opération sur la calculatrice, il vaut mieux utiliser les parenthèses. Alors que là, je suis au tableau, je vois bien que ce qui est en haut, je sais me séparer, ce qui est en bas, je sais me séparer. La calculatrice, elle ne le sait pas. Donc voilà, où on peut aussi dire que c'est égal à 1 divisé par 1 divisé par C1 plus divisé par C1 de la parenthèse. Il ne faut pas oublier un 1 divisé par, c'est tout. Parce que ça a tendance un peu à se décaler à chaque fois. Mais les bobines, pardon. Alors, en règle générale, quand même, les bobines, on n'aime pas trop les monter soit en série ou en parallèle. En série, alors, quand on les met en série, comme ça, j'ai deux bobines. En fait, je les mets rarement en série. Pourquoi? Parce que je suis embêté. Souvenez-vous quand on a dit qu'on doublait le nombre de tirs. Je quadruple la valeur de ma bobine. Donc si je me fous deux bobines en série comme ça, bêtement, proches l'une de l'autre, c'est le bordel assuré. Elles n'aiment pas du tout. La seule solution, c'est de les mettre une dans un sens et une dans l'autre. Pour que les champs magnétiques, donc justement, ne se contrarient pas. Ah ben non! Si ça s'annule, alors là, si ça s'annule, c'est une catastrophe.
Non, s'annule,
je veux dire, attends. Stop. Si tu mets ça, c'est-à-dire dans le sens, bobine dans le sens anti-horaire, c'est un truc, ça bloque tout. Parce que les deux champs magnétiques sont l'un contrarie l'autre et donc ça bloque tout. Que tu n'arrives pas à les coller. Ah bah si, automatiquement. Il y a un champ magnétique. Ouais. Oui. Ah ben ça marche pas. C'est ce que tu mets dans les boîtes de filtrage. Dans ton filtre DF, c'est ce que tu mets. Hein. Tu mets une bobine dans un sens et une bobine dans l'autre. D'accord, mais pareil. C'est pour le mouvement. C'est ça que tu mets un noyau magnétique dedans.
Bah,
oui. Ah bah oui. Le fait de rajouter un noyau magnétique au départ, ça fait le même effet. Ouais, c'est moi qui ai plus de retour. Bon. Bizarre, oui. donc, ma bobine, quand je la mets en série, donc lorsqu'à l'examen on pose la question sur des bobines en série, on part du principe que les bobines ne sont pas ce qu'on appelle, enfin il n'y a pas de mutuelle induction. C'est-à-dire qu'elles sont, en fait elles sont blindées au-dessus pour éviter que les champs magnétiques se mélangent, on les met dans un capot en ferraille. Pour éviter justement que ça, que le champ magnétique déborde. Ou alors, on les met de manière qu'il y en a une qu'on met verticale et l'autre qu'on met horizontale. Comme ça, les deux champs magnétiques ne rentrent pas l'un dans l'autre. Ou alors, on les éloigne suffisamment. Encore plus simple. Mais des fois, dans des montages, c'est pas facile d'espacer les bobines. Elles peuvent être parce que les montages sont petits et donc elles sont l'une à côté de l'autre. Quant au montage, alors le montage parallèle de bobines, alors celui-là, donc comme ça, celui-là n'est jamais utilisé. Parce que là, le bordel assuré. On comprend rien du tout à ce qui se passe.
Parallèle.
Oui. Parallèle et rapproché automatiquement.
Ah oui, oui, oui.
Ah, pour quoi.
Mais si c'est comme ça, ça va. Mais...
Ah bah si elles sont éloignées, il n'y a pas de problème. Ouais. Éloignées ou blindées.
Ouais, c'est bon.
Bah si elles sont l'une à côté, il y a une valeur, mais qui n'est pas facilement calculable. Donc au moins très. Bah c'est imprévisible, le bloc. Oui, oui, c'est imprévisible. C'est pas du tout, hein. Donc, dernière chose pour ce soir, c'est le déphasage. Parce qu'on a vu, dernière chose, le déphasage introduit par les bobines. Et ça, ce déphasage va être très important, on va le voir après. On va revenir dessus la semaine prochaine sur ce déphasage. Le déphasage, c'est quoi? C'est le fait que dans une résistance, lorsqu'on parle de résistance, d'impédance, dans une résistance, l'intensité est toujours fonction de la tension. Hein, c'est la loi d'Ohm, U égale RI. Quand j'ai de la tension, j'ai de l'intensité. Quand j'ai plus d'intensité, j'ai plus de tension. Donc, là, dans une résistance, tension et intensité, ça va ensemble. Dans les bobines, ça ne va pas ensemble. Les condensateurs non plus d'ailleurs. Pourquoi? Parce que, en fait, dans mon condensateur, tout à l'heure, quand on avait dit qu'il se remplissait, mon condensateur, il se remplit, donc j'ai de l'intensité. Je vais avoir des électrons qui se mettent de chaque côté de la plaque. Ce qui veut dire qu'ici, je vais avoir une tension. Et ici donc du plus, Mais si je ne change pas de sens de courant, pour vider mon condensateur, eh bien une fois que mon condensateur est plein, j'ai plus d'intensité.
Il est plein.
Les électrons, ils savent quoi où aller, puisque mon condensateur est plein. Et donc dans ce cas, j'ai plus d'intensité, j'ai qu'une tension. D'accord ? Donc on voit que dans ce cas-là, tension et intensité ne sont plus liées. Donc pour le condensateur, on a d'abord de l'intensité qui génère une tension. Et pour ma bobine, c'est quoi ? Ma bobine, elle est comme ça. Ma bobine, je vais avoir d'abord une intensité. Au début, j'ai rien. Au début, je commence avec rien. J'ai de l'intensité qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Un champ magnétique se crée. Le champ magnétique va me générer une tension. Ça, c'est typiquement ce qui se passe dans les bobines de bagnole. Alors là, le mécanicien, il va revenir. C'est dieseliste, alors ça marche pas, t'as pas besoin de...
Et... La bobine, si on n'envoie rien, elle a rien.
Bah si, parce que la bobine, ce que tu fais, tu envoies un courant dedans, et ce courant que tu envoies dedans, ça génère une tension. Et c'est ce qui fait que l'étincelle sur ta surface. Et c'est parce que tu as envoyé un courant de tension, puisque la tension, c'est un plus de c'est la tension de la batterie. Et le fait d'envoyer génère une tension. Et c'est le champ magnétique de la bobine qui a généré cette tension. Parce que qu'est-ce que... Là, pour l'instant, elle se dit, il n'y a pas de courant. Elle voit arriver un courant, qu'est-ce qu'elle se dit ? Il faut que je génère un champ magnétique. Là, alors, il faut que je bosse. Et pour générer ce champ magnétique, eh bien, elle se crée elle-même une tension. Pour empêcher justement ce courant et empêcher le champ magnétique d'arriver. Elle est fainéante, ça devient bien. Alors, Donc, pour éviter de créer ce champ magnétique, elle se génère une tension. Et une fois que la tension est générée, que le champ magnétique est en cours, la tension n'existe plus, mais l'intensité reste. Donc on voit qu'on a encore le phénomène complètement inverse du condensateur. C'était l'intensité qui génère une tension et la tension reste. Et dans le cas de la bobine, c'est l'intensité qui génère une tension, la tension disparaît, mais l'intensité reste. Et ben voilà. Ça la bobine aussi. Donc voilà. Et ce qui veut dire que dans... Alors, par principe, alors par définition, alors c'est une... ce n'est qu'une définition, on part toujours que c'est l'intensité qui est la référence. On est parti de ce principe-là. On aurait pu très bien dire l'inverse, mais bon. C'est comme les électrons, la lutte, ils étaient négatifs, finalement ils sont positifs. Ça dépend. Eh bien, là, on dit pour définir un retard, on le prend par rapport à l'intensité. Et, enfin un retard, un déphasage. On le prend par rapport à l'intensité. Et cette intensité, dans le cas du condensateur, on a donc l'intensité qui est en avant. Par rapport à la tension, qui veut dire, et dans le cas de la bobine, c'est l'inverse. C'est d'abord l'intensité, d'abord la tension et après l'intensité. Alors que dans le cas du condensateur, c'est d'abord l'intensité et la tension qui arrive. Hein? Intensité et la tension arrive, et là, d'abord la tension, parce qu'il y a une génération du champ magnétique, et après intensité. Et une fois que l'intensité est créée dans la bobine, il n'y a plus de tension. De même, quand la tension est créée dans le condensateur, il n'y a plus d'intensité. Donc, on a complémentarité dans ce sens-là aussi. Donc finalement, de deux choses, finalement on se dit comment ça peut être complémentaire ces deux choses-là, eh bien en fait on arrive à trouver la complémentarité et dans les formules et dans le comportement. D'accord ? Et c'est pour ça que ce sont deux éléments qui sont absolument indissociables. Ouais. 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 Bien, alors, on va s'arrêter là pour ce soir, on va faire les exercices, on va se les faire de notre côté parce que sur internet c'est pas très simple, donc le mieux c'est de les faire par soi-même, même si des fois c'est pas aussi évident que ça, et de faire des exercices aussi par rapport aux séries d'exercices. Alors là il y a toutes des séries qu'est-ce que j'ai. Le chapitre 2, c'est les 8 et 9, série 8 et 9. Si vous voulez travailler dessus, c'est 8, ça correspond à ce qu'on a fait la semaine dernière et un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, et 9, c'est tout ce qu'on a fait, c'est une partie de ce qu'on a fait aujourd'hui et ce que l'on verra la semaine prochaine. Ouais. 8 et 9. Sur ce, bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Et donc, j'espère vous retrouver. On n'était pas très nombreux ce soir, on était 7. Mais bon, j'espère que je décourage pas trop le monde. Voilà, et 6 GPX, encore 6 KGL, qui termine ses émissions. On va remballer après avoir fait quelques exercices. Bye bye.